Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous chantons le cantique sur les ailes de la foi, numéro
364.
Sentinelle vigilante, qu'en es-tu donc de la nuit? Oui, à l'âme somnolente, que déjà le matin nuit. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous? Au loin gronde la bataille, tout est sombre autour de nous. Sentinelle passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. De repos, de relâche, racheté de l'éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous t'exaltons parce que ce soir encore, tu nous rassembles dans ta maison pour nous conduire sur tes sentiers. Seigneur notre Dieu, rends-nous attentifs, rends-nous réceptifs et fais en sorte que ta parole pénètre profondément en nous et nous transforme à l'image de ton Fils Jésus-Christ pour que nous soyons dans ce monde véritablement tes disciples, ceux-là qui attendent ta venue, ceux-là qui chaque jour s'apprêtent pour t'accueillir. Dieu Tout-Puissant, viens Seigneur, instruis ton peuple ici rassemblé. Que ton Esprit Saint nous éclaire dans toutes les articulations de ce que nous avons à dire ce soir. Ô notre Dieu, bénis pour chacun de nous cette soirée. Bénis chacun de nous au nom et pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, ce soir, notre thème, c'est les modèles bibliques de fécondité. Les modèles bibliques de fécondité. Je vous invite donc à fouiller avec moi un tout petit peu le livre de la Genèse, c'est-à-dire le livre des commencements. Le livre des commencements de toutes choses. En effet, la Genèse raconte les commencements ou les origines du monde ou sa naissance. Les origines de l'humanité, de la famille, de la civilisation et aussi l'histoire du salut de l'humanité après le péché du premier couple, c'est-à-dire Adam et Ève. En créant le monde, Dieu avait son plan et son objectif précis. Si vous lisez les deux premiers livres de la Genèse, vous aurez une idée claire de ce que Dieu voulait en créant le monde. Il créait un monde pour mettre à sa disposition et le conduire suivant sa volonté. Mais le péché a fait irruption dans ce monde par Adam et Ève, le premier couple humain. Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, ayant péché, ont été séparés de Dieu, jugés et condamnés à mourir. Il a fallu que Dieu choisisse Abraham, descendant de la famille de Noé, la seule famille fidèle qu'il a épargnée en détruisant le premier monde. On appelle ce choix élection. Élection sans aucun mérite de la part du patriarche Abraham. Il est ainsi choisi pour que, par sa descendance, le pardon du péché qui a envahi toute l'humanité se réalise dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Messie d'Israël. Lorsque Dieu appelle Abraham, il est sans enfant et il a 75 ans. Mais, sans discuter ni hésiter, Abraham quitte Haran, sa résidence, avec tous les siens et tous les biens pour Canaan. Ses pérégrinations, Négève, Égypte, après la famine. Pourquoi une famine dans le pays où Dieu a choisi de conduire son serviteur? On peut se poser cette question avec raison. Mais, après la famine, dans la famine, Abraham continue sa marche en s'abandonnant tout simplement à Dieu, sans s'interroger. Il traverse Canaan avec succès car il ne se remet pas en question, son appel. Il ne discute pas avec Dieu. Il ne se pose aucune question. Il reste calme et fait tout simplement ce qu'il peut pour éviter d'être tué par la famine avec les siens. Le pays n'est pas non plus occupé, inoccupé. Il y a des habitants dans ce pays, des autochtones, qui s'y trouvent depuis longtemps. Mais Dieu lui dit que ce sont ses descendants qui vont occuper ce pays. Là encore, Abraham ne s'interroge pas. Abraham ne demande rien à Dieu. Il reste calme et confiant en Dieu. Il sait que Dieu peut tout. Et que ce qu'il a à faire, c'est simplement d'obéir. Quand il trouve un peu d'espace vide, il y construit ses tentes pour les habitants de son monde. Il construit également l'autel de Dieu, là où il a apparu, dans ce pays peuplé d'autres habitants. Une famine s'abat sur le pays. Abraham ne se demande pas pourquoi. Il se débrouille à se nourrir et à nourrir les siens. Pour échapper à cette famine, il se dirige vers l'Égypte. Certes, au point d'entrer dans ce pays, il demande à sa femme de mentir en déclarant qu'elle est sa sœur et non sa femme, par crainte qu'on ne le tue avant de prendre celle-ci. Vous voyez, il est comme vous et moi. Il ment aussi. Il entre en Égypte et il laisse sa femme entre les mains de Pharaon, le roi d'Égypte. C'est Dieu qui va alors intervenir pour la libérer en punissant Pharaon. Abraham est donc un pécheur comme vous. Il se dispute l'espace avec son neveu et la séparation se produit. Après cette séparation, Dieu bénit Abraham, lui accorde de l'espace et promet de rendre sa descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre. Mais une caractéristique qui m'a intéressé dans la vie d'Abraham, c'est que malgré la dispute avec son neveu et même la séparation, il ne l'oublie pas. Quand là où il se trouve, il est attaqué et est en danger, il intervient et le libère. Ce qui veut dire que Abraham ne garde pas rancune. Abraham considère encore son neveu comme membre de sa famille malgré la séparation. Dieu fait alors alliance avec Abraham après sa séparation avec Lot et les combats pour le libérer des mains de ses ennemis. Une autre caractéristique de la foi d'Abraham, c'est la patience. Abraham est patient. Alors qu'une descendance est promise à Abraham à 75 ans, c'est à quel âge qu'il a son premier fils? À 100 ans. Il attend patiemment. Et le fils arrive quand il a 100 ans. Il est vrai qu'à un moment donné, il s'est un peu impatienté. Et sous la pression de sa femme, Sarai, il a eu un enfant avec la servante. Mais c'est le fils de sa femme qui lui donnera sa descendance en la personne d'Isaac. Ce fils qu'Abraham aura à 100 ans. Dieu va pourtant le mettre à l'épreuve. Une épreuve vraiment, comment je vais appeler ça? Une grosse épreuve. Une grosse épreuve parce qu'il va demander à Abraham de sacrifier cet enfant pour l'adorer. Est-ce qu'Abraham va refuser? Il accepte. Parce que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui reprend. Voilà la devise d'Abraham. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui reprend. Ce que nous apprenons donc de la vie d'Abraham, c'est obéir, obéir, obéir. Sans hésiter. Garder la patience. Quand la promesse tarde à arriver. Et quand Dieu demande n'importe quoi, quand on est à mesure de donner, on donne. On n'hésite pas. Parce que c'est Dieu qui a tout, c'est Dieu qui nous donne tout, et tout lui revient. Nous devons donc, frères et sœurs, même aujourd'hui, être à mesure de servir Dieu avec tout notre être et avec tous nos biens. Sans hésiter, sans calculer. Parce que Dieu, c'est Dieu qui donne et tout lui revient. Nous avons un autre monument de la foi, un autre exemple qui peut nous dire quelque chose. Il s'agit de Moïse. Moïse, cet enfant de la famille de Lévi, comme vous le savez, Lévi et l'un des 12 fils de Jacob. Moïse et son fils. Il est né en Égypte. Et à sa naissance, il y a un danger qui plane sur la tête des Israélites. Pharaon est prêt, après, à tuer tous les premiers-nés, tous les enfants mâles des Égyptiens, des Israélites. Et qu'est-ce qui va se passer? À sa naissance, sa maman va le cacher dans les Sisongo au bord de l'eau. C'est d'ailleurs le sens de son nom. Et la fille de Pharaon va le trouver et l'amener à la au palais. Moïse va grandir au palais. Est-ce que vous savez que c'était la volonté de Dieu? Hein? Mais si ses parents étaient peut-être comme nous, ils auraient discuté pour reprendre leur enfant. Mais on laisse l'enfant dans la cour royale. Il grandit là-bas. Et quand il va devenir grand, il va chercher ses parents. Il va chercher les descendants de son peuple. Il va aller chercher les descendants de son peuple. Il est bien au palais. Il a eu une éducation, n'est-ce pas, des fils des rois. Mais il refuse de rester dans ce palais. Il rentre vers les siens. Et il leur demande de partir d'Égypte avec lui.
Se sentir trahi, anéanti.
Moïse
avoir tant de peine,
décide donc le peuple à quitter l'Égypte sous son autorité. Et à cause de la formation qu'il a eue au palais, il deviendra le plus grand des chefs égyptiens. Et il saura diriger ce peuple vers la sortie. Il va amener son peuple hors d'Égypte. Dans un premier temps, Dieu va donner les 10 commandements. Il va prendre les 10 commandements. Et à cause de la désobéissance du peuple, du mauvais comportement du peuple, les premières tables vont être cassées. Il va prendre d'autres tables et continuer à conduire le peuple. Malheureusement, à cause toujours du comportement du peuple qui ne tenait pas, il va commettre tellement de fautes, tellement de péchés, qu'il n'atteindra pas la terre promise. Mais le constat, c'est qu'il travaille avec une équipe. Et cette équipe va continuer à conduire le peuple jusqu'en terre promise. Quelle est cette équipe? Il s'agit de Aaron, Josué et Myriam. Malgré la mort de Moïse, ces trois personnes vont donc conduire le peuple jusqu'en terre promise. Nous avons donc là quelques autres monuments de la foi, quelques autres exemples Jésus nous dise quelque chose. Nous avons, dans en terre promise, déjà, en Israël, nous avons David. David, berger, poète, et finalement, roi. David a vaincu Saül et il deviendra le deuxième roi d'Israël. David était de la tribu de Benjamin. Et pour cela, il est devenu l'ancêtre de Jésus, puisque lui-même était de cette tribu, la tribu de Benjamin. Il est l'un des plus grands personnages de l'Ancien Testament, car son cœur était entièrement attaché à Dieu. Et jusqu'à présent, ses poèmes servent encore de prière, d'adoration et de louange pour de nombreux chrétiens. Il est pourtant un pécheur comme vous et moi. Quelqu'un qui a commis même des scandales. Quel est le scandale qu'il a commis? Il a convoité la femme de Uri, Bathsheba, et il a couché avec elle. Les rois étaient pourtant en campagne. Il y avait la guerre. Et paresseux, il est resté à la maison. Et comme il flânait, il tournait, n'est-ce pas, sur le balcon, et il a vu une femme nue qui se lavait. Et comme cette femme était très belle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'appeler. Vous pouvez lire cette histoire dans 2 Samuel 23, verset 39. Et 1 Chronique 11, verset 41. Il va donc appeler cette femme, coucher avec elle, et la femme va devenir enceinte. Devenue enceinte, elle va signaler au roi qu'elle est devenue enceinte. Et qu'est-ce que le roi va faire? Il va tenter d'appeler Uri du lieu de bataille pour qu'il vienne coucher avec sa femme. Il use des manières. Et quand il ne réussit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il demande qu'on le place au front. Et il a envie d'en finir avec ce monsieur qui le gêne. Il est envoyé au front et il est tué. David croit qu'il est sorti d'affaire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer son prophète. Le prophète va, en parlant de cette affaire, il va utiliser une parabole. Et quand David va demander qu'on tue ce monsieur là qu'on et qu'il remette pas seulement la brebis, je crois qu'on a parlé de 4 brebis, Et Nathan va dire, c'est toi. Et qu'est-ce que David va faire? David va demander pardon à Dieu. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence avec ceux-là qui ne craignent pas Dieu. Avec ceux-là qui ont tendance de croire que Dieu ne voit pas certains péchés. David va demander pardon. Et il sera pardonné. Une des grandes qualités de David, c'est qu'il est fidèle et compatissant. C'est pour cette raison qu'il revient toujours au bercail après avoir péché. Mais il ne prend jamais le pardon de Dieu à la légère. Prenons le psaume 32.
Quelqu'un nous lit quelques versets.
La grandeur et la force d'Abraham, pardon, de David, c'est qu'il sait revenir sur son péché. Il sait demander pardon à Dieu et ne plus y revenir. C'est ça qui fait la différence avec beaucoup de chrétiens. Péché, c'est possible. Mais n'est pas passé toute sa vie dans le même péché. pécher tous les jours, recommencer. David pêche, il confesse et abandonne. C'est pour cela que Dieu voyait en lui un homme selon son cœur. Il ne cherche pas à échapper aux conséquences de ses fautes non plus. Mais il est prêt à endurer les conséquences de ses fautes. C'était un roi humble et respectueux du sacré. C'était un roi qui avait pitié du pauvre. Prenons le 1 Samuel 26, tout le chapitre. 1 Samuel 26. Quelqu'un nous lit ça à haute voix, s'il vous plaît. On va s'arrêter quelque part. Quelqu'un lit. Si vous avez suivi cette histoire, Saül est en train de poursuivre David pour le tuer. Mais ici, David a eu la possibilité d'en finir avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il faudra terminer la lecture. La lecture à la maison. faudra terminer la lecture à la maison. Quand David a eu donc cette possibilité de tuer Saül, et qu'est-ce qu'il a dit? Il ne va pas mettre sa main sur loin de l'Éternel. David est donc un homme humble, respectueux du sacré. Un homme qui a pitié également du pauvre. Prenons le psaume 122. David tient au sacré. Il prend au sérieux le sacré. Que ce soit l'être humain ou la maison d'adoration de l'Éternel. On peut citer un certain nombre de psaumes, il y en a beaucoup. Je veux vous en donner pour que vous lisiez à la maison. Il attend tout de Dieu, psaume 23. Il a une foi inébranlable et contagieuse. Psaume 37, 5. Psaume 34. Sachant que tout ce qu'il a bien appartient à Dieu, il lui confie tout ce qu'il a. Psaume 24, psaume 103. S'étant entièrement abandonné à Dieu, malgré ses faiblesses, qu'il reconnaît toujours, David faisait entièrement confiance en Dieu. Psaume 42, 121. Nous voyons donc en David un homme qui est faible, pécheur, comme vous et moi, mais qui se repent et qui s'engage à ne plus recommencer, qui s'engage à ne plus pécher. Et c'est pour cette raison que beaucoup de ces psaumes, dans beaucoup de ces psaumes, il reconnaît ses fautes. Et il s'engage à les abandonner. Parlons maintenant de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, celui qu'on appelait Saul de Tarse, a été converti brutalement à la foi chrétienne par Christ personnellement. En effet, sur le chemin de Damas, où il allait pour arrêter les chrétiens afin de les ramener à Jérusalem, les enfermer, pendant qu'il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, tout à coup, alors qu'il s'approchait de la ville, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » C'est la voix de Christ. À cette voix, il répond, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur de lui dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Il va se relever, étant devenu aveugle. Et on va le conduire à Damas. Cette fois-ci, plus que le persécuteur attitré, mais plutôt comme un disciple de Jésus-Christ. Et après 3 jours de cécité et de jeûne, et après l'intervention des disciples de Christ du nom d'Ananias, il va le guérir de sa cécité momentanée et le baptiser. Il est alors rempli du Saint-Esprit et devient un puissant instrument entre les mains de Christ. Et lorsqu'on lit son histoire, il est clair que, mis à part Jésus, personne n'a exercé une aussi grande influence que l'apôtre Paul sur l'histoire du christianisme. Dieu est libre et il peut utiliser qui il veut pour accomplir ses œuvres quand il veut. L'apôtre Paul, le persécuteur des chrétiens, devient lui-même disciple et apôtre. Et non seulement il est persécuté à son tour, mais il sera également tué pour la cause du Christ. Le Seigneur Jésus a voulu choisir Paul parce qu'il avait le profil de l'emploi. Avant sa conversion, il était un pharisien déterminé. Il était déterminé à en finir avec la foi chrétienne parce qu'il voyait que la foi chrétienne était une menace pour la religion juive, pour le judaïsme. C'est pour cela qu'il allait jusqu'à Damas, où les chrétiens s'étaient réfugiés pour les persécuter, pour les arrêter et les ramener à Jérusalem afin de les emprisonner. Il s'était donc donné pour devoir de les arrêter partout où ils se réfugieraient pour les ramener dans les prisons de Jérusalem. Mais il va lui-même être arrêté par Jésus le Christ en personne. Arrêté par le Seigneur de l'Église sur la route de Damas et transformé miraculeusement par Jésus-Christ lui-même, il va utiliser le même dynamisme qu'il animait pour répandre l'évangile. Avec la grande formation auprès de Gamaliel, ce pharisien docteur de la loi et membre du Sanhédrin, Paul était un grand connaisseur des Écritures. Il voulait donc en finir avec le christianisme, ce mouvement naissant qui était pour lui un danger contre le judaïsme. Mais il n'ira pas bien loin avec son projet. Jésus va lui-même l'arrêter sur le chemin de Damas et faire de lui le plus grand des apôtres du Nouveau Testament. Le Seigneur est libre de faire ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. Avec l'apôtre Paul, l'évangélisation va prendre une envergure jamais égalée jusque-là. Premièrement, parce qu'après sa rencontre avec Jésus, sa vie n'était plus comme avant. L'apôtre Paul était passé par une autre naissance, celle que nous appelons la nouvelle naissance. Passé par là, l'apôtre Paul ne se possédait plus. Sa vie appartenait désormais à Christ. Et Christ pouvait l'utiliser pour faire ce qu'il veut. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul lui-même dira: j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même. Voilà la parole que chacun de nous doit prononcer. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est que de cette manière que tu peux être efficace entre les mains de Christ pour accomplir ses œuvres. Mais si tu as encore ta volonté, si tu as encore ton honneur à toi, ta gloire à toi, Christ sera bien loin d'être servi. Pour être servi, il faut mourir en soi-même et laisser Christ vivre à travers tes parents, à travers tes membres, à travers toutes tes activités. Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul n'avait pas une vie à lui, mais il vivait uniquement pour Christ. C'est pourquoi il pouvait dire: ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est l'esprit. Par ce qui est de l'esprit, je vous en prie. Fin de citation. Et il poursuit, je le cite toujours: la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Fin de citation. La nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Ailleurs, dans d'autres Bibles, on dit: la chair tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. La vie en esprit, c'est celle qui est dirigée par l'Esprit Saint. C'est celle qui est soumise entièrement à la loi de Dieu et qui ne fait plus ce qu'elle veut. La nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Romains 8, versets 5 à 8. Chacun doit s'interroger pendant cette semaine. Quelle vie mène-je? Quelle est la vie que je mène? Est-ce que ma vie est dirigée par l'Esprit Saint ou par ma propre nature? Parce que même chrétien, même baptisé, peut-être même né de nouveau, on peut arrêter de grandir. Et la chair reprend le dessus. La chair reprend le dessus. Et on fait désormais plutôt la volonté de cette chair. Le chrétien doit grandir. Le chrétien ne peut pas être baptisé et 10 ans plus tard, il est toujours comme il était baptisé. Ou bien il a même régressé. C'est que là, il y a quelque chose qui ne tient pas. Et le danger est grand pour lui de retomber dans le péché. Parce que l'apôtre Paul vivait pour Christ. Et pour Christ seul, il a répandu plus que jamais l'évangile dans tout l'Empire romain au cours de son premier voyage missionnaire.
Et notre randonnée avec toi est désormais
au sein de l'Église divine, primitive. Un problème sérieux
dans la vie de ceux qui s'approchent de toi
est à l'ordre du jour
âme répandue,
et sème du trouble.
Je t'aime, Seigneur.
On se demande si les non-juifs doivent obéir aux lois juives ou devenir chrétiens ou pas. C'est l'apôtre Paul qui va trancher ce problème. Convaincu par l'Esprit Saint du fait que Dieu ne fait accession de personne, il prêche l'union entre juifs et païens chrétiens et fait cesser ce trouble. Je demande à quelqu'un de lire Éphésiens 2, versets 11 à 22.
Éphésiens 2, 11 à 22.
Thank you.
Voilà comment une personne remplie de l'esprit tranche, n'est-ce pas, les débats et fait finir les querelles. Et c'est ce qui doit se passer dans une église normale. Dans une église normale, l'Esprit Saint parle. L'Esprit utilise les gens pour parler. Et on ne peut pas passer des années et des années autour d'un problème de rien du tout. Comme les élections, par exemple. L'Esprit Saint devrait trancher. Et non les tribunaux. Voilà la vie chrétienne. Et c'est cette vie-là que l'Église évangélique du Cameroun doit mener. Enfin, en trois voyages missionnaires, Dieu a utilisé Paul pour répandre l'Évangile plus que jamais dans tout l'Empire romain. Il va fonder plein d'églises. Écrire 13 lettres, je pense, aux églises. Et finalement, mourir martyr entre 102 et 108 après Jésus-Christ. Paul pouvait donc évangéliser, convertir de nombreux juifs et païens, fonder des églises et mourir martyr parce qu'après sa conversion, il ne vivait plus que pour servir son sauveur et son maître, Jésus-Christ. Ce n'est qu'une vie comme celle-là qui peut être efficace. Qu'est-ce que nous avons retenu comme caractéristique dans la vie de ces hommes de foi que nous avons essayé de visiter. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez retenu? Eh bien. Je voulais savoir quelle était leur caractéristique, comment vivaient-ils. Si vous n'avez pas retenu, vous me demandez. Vous me posez. Oui. L'obéissance. Quoi d'autre? Un à un, s'il vous plaît. La persévérance, l'humilité, pardon, la compassion, la patience, la repentance, la confiance, le respect du sacré. Il y a un aspect sur lequel nous n'avons pas beaucoup insisté, la collaboration. Quelqu'un comme l'apôtre Paul, par exemple, a travaillé avec beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, Timothée, Onésime,
Silas, Barabbas, Aquilas et tous ces gens-là. Donc, une vie chrétienne normale nous exige l'obéissance. D'abord la foi, ensuite l'obéissance. Le chrétien est une personne obéissante. C'est notre manière d'être, obéissant. Le chrétien est également quelqu'un qui évangélise. Il ne peut pas être tranquille quand les gens meurent à côté de lui. Il évangélise. Le chrétien n'a pas peur des persécutions, même si ça va jusqu'à la mort. Le chrétien, s'il se rappelle qu'il a péché, il doit se repentir immédiatement. Jamais garder dormir avec un péché. Mais pas passer le temps à pécher, hein, à commettre le même péché, demander pardon. Commettre le même péché, demander pardon. Là, ça devient un amusement. Le chrétien est une personne patiente. Le chrétien est une personne qui cherche l'entente entre les frères. Je crois que c'est là l'essentiel de ce que nous avons vu de la part des hommes de la Bible que nous avons visité ce soir. Amen.